parler un peu vaccin, parce que qu'est-ce que tu veux? On est tous dans l'expectative, on a tous hâte qu'il y en ait un, puis là, ben est arrivé ce qui devait arriver. Il y a une compagnie, AstraZeneca, un très, très grand groupe pharmaceutique, qui a dû arrêter son processus d'essai clinique, là. Et pour en discuter, on va aller rejoindre le docteur Gary Cobbinger, donc qui est chercheur au département de microbiologie, infectiologie et immunologie à l'Université Laval. Bonjour, docteur Cobbinger.
Bonjour.
Dites-nous ce qui est arrivé avec AstraZeneca, s'il vous plaît.
Mais écoutez, ils ont mis leur essai clinique sur une pause pour prendre le temps de faire une enquête sur un des participants qui a développé une pathologie qui reste un peu confidentielle. Ils n'ont pas communiqué beaucoup d'autres choses que ça. La grosse question, est-ce que c'est lié à l'essai clinique? Ça non plus. Ça va être la première chose que l'enquête va devoir déterminer. Puis après ça, ils vont devoir avancer comme ça.
Ouais, là, ce qui est rapporté par l'agence France-Presse, c'est qu'ils font une pause dans les vaccinations pour permettre une évaluation des données de sécurité par un comité indépendant. Ce qu'on comprend, Dr Cobbinger, puis évidemment, on n'est pas des experts comme vous, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a eu un problème avec un des patients là, qui a testé le vaccin, là.
Ça ne veut pas dire qu'ils ont eu un problème. Vous savez, tous les participants d'une étude clinique sont suivis de très près. Puis c'est normal, surtout quand on tombe avec des nombres de plus de 10 000 personnes, que les gens tombent malades ou ont des pathologies qui arriveraient de toute façon. C'est pour ça que la première chose à déterminer, c'est est-ce que c'est lié à l'essai clinique. Donc, pour l'instant, c'est pas la réponse. Ça, c'est juste de dire, il faut qu'on regarde pour qu'on s'assure si oui ou non c'est lié à l'essai clinique. Si oui, ben là, il faut qu'on comprenne exactement pourquoi. Est-ce que c'est parce que cette personne-là a une caractéristique, a peut-être un état sous-jacent qui serait propice à avoir, comme j'ai dit, un événement.
Un effet secondaire
ouais. Qui n'est pas apparu dans les autres. Tout ça, va falloir que ce soit déterminé. Vous savez, c'est pas rare, hein, d'avoir des pauses dans les essais cliniques. C'est assez fréquent. C'est pas hors de l'ordinaire du tout. C'est juste que là, on a évidemment, tout le monde est intéressé à l'avancement de ce vaccin en particulier, peut-être pas cette étude-là, mais le vaccin COVID. Et donc, on voit que ces choses-là sont beaucoup plus médiatisées, mais ils arrivent souvent. Habituellement, on n'en entend juste pas parler.
Oh, ben, ça, je trouve ça encourageant, Dr Cobbinger, parce que on regardait les reportages, là, et puis on se disait, ah, ça, c'est un recul. C'est un recul, là. Alors là, vous nous dites, faites attention, tirez pas de conclusion. Ça arrive assez souvent qu'on arrête. Parce que là, ils étaient en phase 3. Rappelez-nous, là, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, là.
Ben donc, phase 1, c'est vraiment une petite population. Souvent, on parle de 50 personnes ou moins. On regarde vraiment la sécurité du vaccin. Donc, c'est vraiment axé sur les effets secondaires, pas sur l'efficacité du vaccin. Phase 2, c'est exactement la même chose, mais avec une population plus de monde. On parle de 200 personnes, par exemple. Puis phase 3, c'est vraiment là où on élargit à plus de 10 000, des fois à plus de 100 000 personnes. Et on regarde vraiment non seulement la sécurité encore en premier, mais les effets secondaires, mais on regarde aussi si le vaccin est efficace. Parce qu'évidemment, on ne veut pas faire homologuer un vaccin qui il a beau être le plus sécuritaire au monde, mais s'il n'y a aucun effet, tout ça, c'est pour rien. Donc, là, on est dans la phase 3 où est-ce que vraiment, encore, le premier point, c'est la sécurité. Mais là, on va regarder s'il y a un signal dans le sens si le vaccin est protecteur, puis si oui, à quel pourcentage.
Oui. Est-ce qu'on va, ils vont vraiment nous le dire, ce qui s'est passé? Ils sont obligés de nous le dire?
Oui, absolument. Normalement, oui, il faut que ça soit du domaine public. Puis c'est très important parce que c'est ça qui fait qu'on a confiance au vaccin.
Oui.
C'est quand les choses sont transparentes.
Oui.
D'ailleurs, on peut voir que dans ce cas-ci, au moins, ça a fonctionné très bien. Leur essai clinique a été mis sur pause et tout de suite, ils l'ont annoncé. Évidemment, ils donnent pas d'informations détaillées sur la présentation clinique de cette personne-là parce que c'est personnel, etc., etc., mais vous savez, dépendamment comment ça puis il faut que ça soit une enquête, c'est peut-être complètement non lié à l'essai clinique. Et donc, après, vous allez voir toutes les données, incluant les effets secondaires dans tout ce monde-là, évidemment sans les noms, ça va être mis à la disposition du public. C'est ça qui est vraiment important pour que les gens puissent regarder, les scientifiques comme les non-scientifiques, qu'on ait accès à ces données-là, puis qu'on puisse commenter, puis avoir un haut niveau de confiance dans ce qui a été fait, dans ce qui a été documenté, puis qu'on voit aussi la documentation d'efficacité ou partielle ou complète ou incomplète.
Alors, mettons que la phase 3 reprend avec le vaccin de AstraZeneca. Après ça, on s'en va en phase 4. La phase 4, c'est quoi encore?
Écoutez, la phase 4, c'est vraiment une fois que le vaccin est homologué, qui est déjà administré, qui est disponible dans la population. Des fois, on voit des vaccins qui sont mis disponibles, mais qui ont des indications spécifiques. Par exemple, on pourrait dire, pour l'instant, ce vaccin-là, c'est seulement les adultes qui sont en bonne santé. On n'inclut pas les enfants, on n'inclut pas les femmes enceintes, on n'inclut pas, etc., etc. Donc, ça, c'est le vaccin peut être homologué comme ça, mis à la disposition, mais phase 4, on surveille ce qui se passe. Parce que dans une étude clinique, même si on a 100 000 personnes, peut-être qu'on manque de voir des événements qui apparaissent seulement quand on a 1 million, 10 millions, 100 millions de personnes qui sont vaccinées. Donc, la phase 4, c'est vraiment de continuer à regarder ce qui se passe. Puis, il y a des vaccins, c'est rare, mais ça arrive. Il y a des vaccins qui sont enlevés en phase 4 parce que souvent, en passant, la dernière fois que c'est arrivé, en fait, c'était une utilisation qui était à l'extérieur de l'indication. Donc, il y a des gens qui ont utilisé le vaccin dans une population qui ne devait pas être vaccinée avec ce vaccin-là. Ça a donné des effets secondaires comme ça avait été prédit. Et ça a été retiré du marché, malheureusement, parce qu'il y en a qui en bénéficiaient. C'est ça la phase 4. Donc, c'est la capacité d'arrêter un vaccin, même une fois qu'il est homologué.
OK. Là, pendant ce temps, à Moscou, ils ont décidé de commencer à tester un vaccin développé par les Russes sur 40 000 habitants de la capitale de Moscou. Et là, évidemment, les Russes en font toute une fierté. Je veux dire, le gouvernement russe en fait toute une fierté. Est-ce que ça vous inquiète, la manière de fonctionner des Russes, vous, dans ce cas-ci, là?
Écoutez, ils l'ont déjà fait avant, avec Ebola notamment, où ils ont homologué un vaccin avant même d'avoir des données de sécurité sur ce que nous, on aurait demandé sur une étude de phase 3. Donc, c'est pas la première fois qu'ils le font. Mais vous voyez que le vaccin n'est pas disponible. On ne voit pas de masse vaccination en Russie. Est-ce que ça m'inquiète? Bon, c'est je trouve ça... on dirait qu'on en est dans une cour d'école, à savoir celui qui kick le ballon de plus loin. C'est malheureux, ça devrait pas être ça la motivation de la vaccination, c'est la santé publique, et ça devrait être motivé et surveillé avec des données scientifiques, pas des influences politiques, qui est peut-être le cas ici, ou en tout cas, je pense qu'on peut suggérer que ça l'est, ça a été influencé. Bon, moi, ça m'inquiète pas parce que j'ai pas l'intention de le prendre, le vaccin, mais on va voir comment ça... Mais ils ont peut-être un bon vaccin, hein. C'est juste que c'est pas bien documenté. Mais la sécurité non plus est pas bien documentée. Donc, c'est tout un risque qu'ils ont pris, et puis c'est leur décision.
Oui. Est-ce qu'il y a eu des histoires d'horreur dans l'histoire des vaccins?
Ben oui, absolument. Il y a eu, malheureusement... C'est pour ça que c'est si difficile, hein. La vaccination, c'est un domaine très... presque ingrat, je dirais, parce que écoutez, c'est l'intervention qui a vraiment sauvé le plus de vies après l'eau potable, mais en même temps, on prend une population qui est en santé, puis on veut la garder en santé, puis après ça, on essaie de convaincre les gens que c'est parce qu'ils ont été vaccinés qu'ils sont encore en santé. Donc, c'est très difficile. Les gens sont très réfractaires à avoir des effets secondaires, quels qu'ils soient, évidemment, quand ils sont en santé. Donc, c'est pour ça que ça a avancé, puis maintenant, il y a tellement d'étapes, puis ça prend tellement de temps. C'est parce que aussi dans le passé, il y en a eu des mauvaises expériences où, par exemple, les vaccins ont fini par causer du dommage en termes de, par exemple, une susceptibilité plus accrue pour ceux qui étaient vaccinés par rapport à ceux qui n'étaient pas vaccinés. Donc, une susceptibilité à l'infection plus accrue. Mais ça, en passant, ça arrive aussi avec des expositions naturelles de ces pathogènes-là. Mais on ne veut pas le créer de façon artificielle. Donc tout ça fait que les gens aussi sont... c'est tout le temps une question de confiance, puis de toujours réaliser les bénéfices en bout de ligne. C'est toujours un risque-bénéfice. Risque-bénéfice, il existe quand vous prenez de l'aspirine, le Tylenol. C'est la même chose avec la vaccination. Donc, on s'organise pour que, évidemment, on veuille avoir accès à des outils qui peuvent sauver des vies, qui remettent les gens... dans une vie raisonnable, des économies en route, avec ça, c'est les bénéfices, mais avec un risque très faible. Mais c'est toujours une balance.
En tout cas, je vais vous dire, quand je lis les articles sur ce qui s'est passé avec AstraZeneca, je comprends un petit peu mieux comment ça fonctionne, puis à quel point c'est une affaire de gros sous. Parce que là, j'apprends donc, en lisant ça, que le laboratoire avait déjà pris des commandes pour de très, très importantes sommes d'argent. Là, il y avait des centaines de millions de doses qui avaient déjà été prévendues par AstraZeneca. Fait que, tu sais, tout ce que vous dites, C'est la procédure à suivre, c'est la procédure qui est suivie. En tout cas, on l'espère, parce que sinon, c'est la sécurité, c'est notre sécurité qui est en jeu. Puis on comprend que c'est très, très, très réglementé, mais on comprend aussi que une compagnie comme AstraZeneca, quand elle arrive comme ça en phase 3 avec un vaccin potentiel, ben là, il y a un paquet de monde qui disent, garde, si jamais ça marche, moi, je t'en prends tant de millions de doses, puis c'est des sommes d'argent très importantes qui sont en jeu à ce moment-là. Là.
Oui, oui, tout à fait. Puis vous voyez aussi, une des raisons, c'est le risque. Hein, dans le domaine, il y a un dicton qui dit, si quelque chose qui doit échouer, il faut que ça échoue le plus rapidement possible. C'est pour éviter justement de s'embarquer dans des dépenses comme ça. Un essai clinique de phase 3, c'est entre 100 et 500 millions, beaucoup plus vers les 500 millions de dollars. Ça, c'est pour juste un vaccin. Donc, c'est beaucoup de ressources. Mais je pense que la pression qui vient du fait qu'ils ont vendu supposément des contrats, il y a des clauses là-dedans qui disent que justement, si le vaccin ne se rend pas jusqu'à la fin et pas homologué, le contrat tombe. Puis c'est comme ça. Une compagnie pharmaceutique, écoutez, je suis pas dans le domaine, je n'ai jamais travaillé pour aucune d'entre elles, mais ce que je me dis, c'est que pour eux, il n'y a aucun avantage avoir un vaccin, être homologué, puis après ça, être retiré du marché en phase 4, comme on disait. Puis ça ne dépend pas d'eux, ça. Hein. Fait que là, ils se créent, là, c'est encore pire. C'est bien mieux de voir un vaccin qui de suivre toutes les règles et de voir un vaccin échouer, entre guillemets, de ne pas se rendre jusqu'à l'homologation, plutôt que d'avoir quelque chose qui se rend à l'homologation, puis il n'y a pas ça qui est retiré. Donc,
oui, parce qu'à ce moment-là, c'est pas juste le vaccin. Tu perds pas juste ton argent, l'argent que tu as investi dans le vaccin, tu risques de perdre ton nom pour tous les autres médicaments que tu produis.
Exactement. Donc, vous pouvez imaginer le niveau de risque qui est en jeu, etc. Vous avez tout à fait bien dit. C'est pas juste ce vaccin-là, c'est tout le reste qui peut être englobé dans un manque de confiance qui se dirige vers une compagnie.
Puis c'est des compagnies souvent qui sont cotées à la bourse. Alors, si jamais tu te plantes, là, tu peux perdre ta chemise. Là, je veux dire, ça peut être la fin de l'entreprise. Parce que c'est des entreprises, qu'est-ce que tu veux, qui marchent à la confiance. Si tu n'as plus confiance au produit de telle ou telle entreprise, tu décides de ne plus l'acheter parce qu'ils t'ont trompé, ben c'est fini, là, c'est fini, c'est terminé, là, c'est capote.
C'est exactement ça. Puis vous avez vu au début là, des efforts de vaccination, il y a très peu de grosses compagnies pharmaceutiques qui se sont lancées dès le début. Hein. Ils ont attendu. Pour eux, c'est du gros risque, tout ça. Parce, surtout avec le terme de temps qu'on s'attend. On s'attend à des prouesses incroyables. On s'attend à compresser 20 ans de travail dans un an, deux ans. C'est tout des défis pour tout le monde. Ouais. Maintenant, on voit les grosses compagnies finalement se sont jouées au mouvement, mais ça a pris du temps pour eux autres. C'est aussi beaucoup de risques. En bout de ligne, il faut avoir un produit solide, sinon ça va exploser, c'est certain. On peut pas cacher des choses comme ça.
Et donc, la promesse de Donald Trump d'avoir un vaccin disponible d'ici le 3 novembre aux États-Unis, c'est de la foutaise, ça, c'est de la politique, ça?
Ah, écoutez, moi, j'ai hâte de voir pour eux. Je leur souhaite d'avancer aussi vite. J'ai hâte de voir les données si ça se fait. J'espère qu'il va être le premier en ligne pour se faire vacciner si ça se fait. Mais on verra, on verra comme si ça va se diriger plus un mouvement ou une position comme les Russes ou d'autres, ou si c'est vraiment, ça va être vraiment la science qui va parler puis qui va établir les faits puis qui va établir les décisions.
Dr. Gary Cumminger, donc chercheur au département de microbiologie, infectiologie et d'immunologie à l'Université Laval. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne journée.
Salut. Bonne journée. Je vous rappelle, le marché mondial du vaccin contre la COVID-19 pourrait valoir 40 milliards de dollars américains en 2021. Je tire cette information d'un papier de François Desjardins dans Le Devoir. Après la pause, on va parler un petit peu de ce qui se passe du côté de la course à la chefferie du Parti québécois. Est-ce que vous pensez, vous, que Guy Nantel, qui est humoriste, comme vous le savez, qui est candidat, si jamais il gagnait la chefferie, il devenait chef du Parti québécois, est-ce que vous pensez qu'il pourrait continuer à donner des spectacles d'humour? Vous pouvez commencer déjà à me donner votre réponse au 98985 ou encore Drainville à commercial 985fm.ca. Je vais en discuter avec Luc tout de suite après la pause.